talmudique. Dans une enluminure du XXe siècle, inspirée par des enluminures du Moyen-Âge, l'artiste Albert Chetrette a représenté le repas des justes dans le monde futur, une œuvre que l'on peut admirer dans les collections du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Au cœur d'un jardin arboré, surplombé d'un ciel et d'un océan animé de plusieurs animaux fantastiques, les justes festoient au son de la musique. Ils portent des couronnes d'or sur la tête, ce qui leur donne des allures de princes et de rois, mais à notre grande surprise, ils ont des visages d'animaux comme ceux qui peuplent les fables d'Ésope ou de La Fontaine. Lion, vache et aigle, chien et singe, palabre, un verre de vin et une cuisse de poulet à la main, deux à deux ou se tiennent solitaires, la tête éloignée de la conversation, l'oreille plutôt tendue vers le son du violon. Qu'a voulu nous dire l'artiste ? Tentons une hypothèse. Seul accèdent à cette récompense suprême qu'est le banquet des justes dans le monde futur, les hommes qui ont réussi à articuler ensemble trois choses. La nature, représentée par les arbres, les océans et les animaux, la technique et les arts, auxquels donnent à penser la nourriture et les différents ustensiles étalés sur la table ainsi que les instruments de musique qui accompagnent le festin, et le politique, clairement signifié par les couronnes d'or qui ornent les têtes de tous les participants. C'est ce que nous propose à sa façon François Ardevenne dans son nouveau livre intitulé « Un midrash pour notre temps », sous-titré « Nature, technique, politique » qui vient de paraître aux éditions Imago, dont cette enluminure est la couverture. Un livre qui, comme le précédent, fut d'abord un enseignement donné les dimanches matins pendant 3 ans au Centre Médem à Paris et fidèlement retranscrit par Edith Applebaum qui en a établi le texte pour que celui-ci soit relu, amendé, encore annoté et encore commenté par l'auteur pour offrir au lecteur une pensée innovante et réjouissante. François Ardevenne, bonjour.
Eh bien bonjour Marc-Alain Wachnin.
François Ardevenne, je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie clinique, professeur de lettres classiques et psychanalyste et que vous enseignez le Midrash au Centre Médem et à l'École rabbinique de Paris. Avant d'aborder les thèmes que vous développez dans votre ouvrage sur la nature, la technique et le politique, arrêtons-nous d'abord sur la méthode de lecture que vous privilégiez et à laquelle vous donnez force et jouvence. Qu'entendez-vous par le terme de Midrash, François Ardevenne ?
C'est une formule qui traduit, selon moi, en tout cas le rapport que j'ai avec cette littérature, parce qu'on peut l'appeler tout de même littérature, je crois, qui, en effet, ne s'inscrit pas dans le champ ni de l'histoire en tant que telle, et la Bible est un livre historique, d'un bout à l'autre, d'une certaine façon, mais dans les interstices de la vérité. Mais non pas, bien sûr, que ce soit des mensonges, comme nous en sommes largement nourris ces derniers temps. Non, c'est un espace qui échappe à ce que d'ailleurs Lacan a appelé dans son texte radiophonie le séisme de la vérité. Autrement dit, le peuple juif aurait cette particularité de ne pas avoir, c'est l'expression de Lacan, failli au séisme de la vérité. C'est-à-dire que là où la vérité va déferler par là son contraire, on va garder, protéger un espace qu'on va appeler interprétatif, disons, où les énoncés ne sont pas reliés au signifiant ou à l'énonçant, mais où ce seront des systèmes d'énoncés les uns enchâssés sur les autres pour provoquer ce que j'appelle une réaction. Donc j'appelle Midrash, disons, cet espace littéraire dans lequel la vérité n'est pas engagée en tant que telle, mais au contraire, un certain rapport à l'inventivité des signifiants eux-mêmes, des mots eux-mêmes, qui se retrouvent parfois presque par hasard les uns à côté des autres, et on entend ce hasard et on en produit soi-même un autre en le commentant.
Alors ce n'est pas un simple Midrash qui vous occupe et vous préoccupe, mais un midrash pour notre temps, c'est le titre de votre livre. Qu'entendez-vous par notre temps, François Ardevenne ? Est-ce une autre façon de dire laïque, par exemple, et en quel sens ?
Notre temps, c'est une réflexion que j'ai engagée dans mon ouvrage précédent, qui était, on pourrait dire, consacrée à la matière biblique elle-même. Et là, j'ai souhaité, au contraire, dans un mouvement inverse, comme ces anges qui montent et qui descendent, mettre un pied dans notre réel. Alors, notre temps, c'est une manière de parler de notre époque, de la tempête de notre époque, mais tempête veut dire temps, d'abord, hein, et moment, et saison, saison en enfer, parfois. Réfléchir à ce qui fait époque, d'une certaine façon, au temps qui nous vient, et je dirais même à ce qu'il y a d'occasion dans le temps. Autrement dit, Midrash pour notre temps, c'est regarder avec moi dans les linéaments du texte midrashique que j'étends à la littérature un peu et à la psychanalyse aussi, et un peu à la philosophie comme lecteur et non comme philosophe, que je ne suis pas. C'est une invitation. Mais en hébreu, léazmin veut dire inviter, mais ça vient du mot zman, qui veut dire le temps. Donc c'est une invitation à saisir le temps qui vient et ne pas rentrer dans les lamentations, mais voir qu'ils sont aussi l'occasion d'être ensemble, de discuter d'un texte et de voir ce que nous allons de toute façon pouvoir en faire à peu près tous dans cet espace dont j'aurais dit qu'il n'est pas saisi par l'exigence ni de la liturgie, ni de la vérité, ni même de la science. Mais que c'est l'occasion de saisir l'occasion, justement. C'est ce qu'on appelle en grec le kairos. Donc c'est ça, Midrash pour notre temps. C'est un je ne sais quoi, voir ce qu'on peut en dire de notre temps un peu, modestement.
Alors comment vous êtes arrivé à vous intéresser au Midrash? Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous y a mené, François Ardevenne?
C'est une longue histoire. Comme dans les histoires, il y a beaucoup de hasard. Voilà. Disons que quand j'ai commencé à étudier ces choses hébraïques, je ne suis pas du tout né dans le judaïsme, j'ai toujours été interrogé, si je puis dire, par le rapport à la vérité du texte biblique et au rapport que nous avons nous-mêmes à la vérité. Lorsque j'ai commencé à enseigner ce Midrash laïque au Centre Medem, c'était à la suite d'une conférence que j'avais faite sur la tâche de Philip Roth, The Human Stain, pas Human Stein. Mais enfin, aujourd'hui, j'aurais peut-être dit Human Stein. Et ce texte est très intéressant parce que magnifique, de Roth, d'une autre époque, du temps d'avant, vraiment, d'une certaine manière. Et disons-le vite, c'est l'histoire d'un professeur de grec noir qui doit se faire passer pour un juif pour être intégré dans une université. Et je trouvais qu'en abîme, c'était un peu mon histoire. Et donc, je ne me suis pas fait passer pour un juif, mais enfin, il a fallu que je me glisse dans la littérature juive. Et de fil en aiguille, si je puis dire, j'en suis arrivé à me dire, et on m'a proposé de faire un enseignement régulier, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ce Midrash que j'avais eu l'occasion, par ailleurs, de goûter dans différents enseignements que j'avais suivis, soit à l'école pratique des études, soit avec le professeur d'hébreu, que j'avais appris, puis par mes propres lectures. Mais c'est ce geste littéraire, voilà, qu'il m'a plu et qu'il m'a été offert par la vie, tout simplement, de rendre un peu plus rituel. Voilà comment le Midrash, dans cet interstice, en quelque sorte, ouvert par la littérature, Roth, en l'occurrence, m'a permis d'être en face de vous aujourd'hui.
C'est-à-dire à la fois grec et juif.
Exactement.
D'une certaine manière, puisque dans le texte de Roth, c'est un professeur de grec,
oui,
comme vous êtes vous-même,
oui,
professeur de grec, et qui veut se faire passer pour un juif, mais c'est-à-dire ici, pour vous, veut avoir un lien privilégié avec les textes,
oui,
de cette littérature. Alors, il me semble que cette démarche et ce parcours sont l'occasion de saluer tout le travail éditorial qui a été fait dans ce domaine depuis une quarantaine d'années et qui a permis de mettre à la disposition des lecteurs, des étudiants et des chercheurs tout un corpus fondamental de la tradition juive. Puisque si vous vous y êtes mis, c'est que vous avez eu la chance de trouver des livres qui vous permettent d'y accéder. On est, je crois, dès lors traversé par un sentiment de gratitude envers ces passeurs d'idées, de livres et de textes. Est-ce un sentiment que vous partagez, François Ardevenne?
Oh, très largement, et beaucoup de remerciements, en effet, à tous ceux qui ont ouvert avec grande générosité ces textes qui sont tout de même pas sacrés. Le Midrash n'est pas un texte sacré, bien entendu, mais avoir ouvert tout de même largement les grandes valises du temps, si je puis dire. Alors, effectivement, au colloque des intellectuels juifs, d'abord, sans doute Emmanuel Lévinas, dans ses lectures talmudiques, donc vraiment à l'extrême fin de son œuvre magnifique, a ouvert à tout le monde, dans un universel, les choses les plus particulières, c'est-à-dire les lois juives elles-mêmes, les plus rigoureuses, et proposées à l'étude commune, David Bannon, naturellement vous-même, et beaucoup d'autres, ont ouvert, offert, vraiment à la conscience universelle, la possibilité de rentrer dans les arcanes, et donc de ne pas en faire un mystère, si je puis dire. Mais peut-être tout un plat, si on reprend la couverture que nous avons choisie pour ce livre. Parce que
j'aimerais d'ailleurs que vous commentiez.
Cette couverture, le premier livre, puisque ces deux livres sont un peu en diptyque, était une couverture très sévère, où c'était en hébreu, représentait la prière de Jonas dans une calligraphie hébraïque. Ici, c'est le monde qui rentre. C'est le monde qui rentre. On peut dire peut-être un mot sur ces éditions Imago. C'est une vieille revue freudienne à l'origine. Mais c'est aussi ce signifiant-là, le nom qu'on donne aux insectes parfaits. Il y a chrysalide. Et l'insecte sort, s'exprime, se colore, se nervure, se signifie. Il devient un imago. Ce n'est pas seulement l'image, chère à Freud, même à Jung d'ailleurs, des images parentales et premières qui détermineraient l'ensemble de nos relations aux autres. Non, c'est l'arrivée d'une naissance, ou dirait-on en grec, d'une entéléchie. Donc, on peut dire que cette couverture, c'est un imago. C'est un insecte ouvert, il y a des animaux, il y a des humains à tête d'animaux. Autrement dit, on est là quand même dans un monde qui s'ouvre. Et c'était l'espérance que j'avais faite, que j'avais en tout cas eue, pour cet objet d'étude. Il faut dire deux choses. La première chose, c'est que ces enseignements ont été faits pendant des épreuves lourdes, des épreuves du réel, je dirais. Donc la Covid, d'une part, ensuite notre réponse numérique, technologique, planétaire. Et donc la question de la technique se posait, quant à la politique, elle est sous nos yeux réanimée et tragiquement, à moins que ce ne soit l'absence de politique, en tout cas le dialogue de la politique et de la guerre sont devant nos yeux en permanence. Donc c'était une façon aussi de laisser une place au réel. Je rajouterai juste une toute petite remarque, parce que vous me faites l'amitié de me rappeler qu'il y a du grec en moi, mais je cite, mais ce passage est si célèbre, le passage dans Ulysses de Joyce, hein, où la casquette, Hamlet, qui n'est pas sans rappeler Hamlet. Voilà un petit midrash, j'offre à tout le monde. Mais sur la casquette de Vincent Lynch, il y a « Jew Greek is Greek Jew, extreme meat ». Donc c'est une manière de dire que dans le midrash, j'entends aussi, en décalant complètement l'idéologie, le mot « mi », qui est la moitié, et qui invite au compromis. Il y a du compromis midrash. Sans se compromettre. C'est une manière de faire une diplomatie entre les textes et entre les cultures. Et ça, je pense que c'est un geste important aujourd'hui de faire, on l'avait dit autrefois, faire négocier les textes entre eux. Alors s'il y a une petite inventivité dans ce texte, c'est celle-là. Permettre à des textes, parfois très éloignés l'un de l'autre, comme ça se fait dans le Midrash classique d'ailleurs, mais parfois vraiment très éloignés, de se rencontrer et de dialoguer dans une élaboration qu'on va appeler réjouissante, mais au sens spinoziste, au sens où ils amènent vraiment de la joie.
Cela rejoint un petit peu la pensée de Rashi, qui disait « qu'est-ce que penser ?» C'est réaliser une ceinture de soie dont un côté est représenté par un aigle, qui est l'aigle des nations, et de l'autre côté par un lion, qui est le lion de Juda, et qu'il n'y a pas de pensée qui serait une pensée seulement juive ou une pensée seulement grecque, mais toute pensée vraie, si on peut dire, ou en tout cas riche et féconde, est toujours une coalition des cultures, et c'est véritablement ce que vous mettez en œuvre et ce que vous venez de dire. Alors, dans votre présentation du Midrash, que vous convoquez, il y a un auteur inattendu, vous avez dit que vous n'êtes pas philosophe, mais vous convoquez un auteur, un grand parmi les grands, Kant en personne. En quoi sa pensée éclaire-t-elle le Midrash ? En sa compagnie, vous nous proposez un cheminement angélique, si on peut dire, François Ardevenne.
Comme vous le rappelez, et c'est important d'être psychanalyste, que je suis en général au divan et pas forcément dans l'espace public en permanence, c'est avoir un rapport d'écart avec la philosophie. Mon discours n'est pas du tout celui d'un philosophe, pas du tout. C'est une position de lecteur, y compris de la philosophie. Donc, Kant est un livre comme un autre, un texte comme un autre pour moi, pourrait-on dire. Alors, par ailleurs, pourquoi Kant ici est convoqué ? Ben, tout simplement, j'allais dire, parce que je réfléchissais à ma propre démarche pour distinguer ces deux ouvrages qui sont deux mouvements. Et je me disais tout simplement que dans ce pour un midrash laïque, donc le pour est là, et on parlera peut-être de pourim une autre fois, mais dans ce pour un midrash laïque était un manifeste, je partais du texte hébraïque lui-même et je montais vers un certain nombre de concepts, ou de pseudo-concepts, on va dire ça ainsi. Donc le mouvement était ascensionnel. Et ça m'a fait penser à ce que Kant dit dans la critique de la faculté de juger sur ce qu'est un mouvement réfléchissant, un mouvement qui part de la chose et qui s'élève vers le concept. Et à l'inverse, celui-ci, me semblait être à peu près l'inverse. Je prends trois piliers de la culture qui nous vient de la Grèce, disons. Je ne réduis pas du tout à la Grèce. Mais la nature est un objet fusis en grec, ça n'est pas la même, mais c'est un nature, c'est un objet très ambivalent, très incertain, c'est un objet faute de mieux. La technique nous vient de la Grèce et la politique est probablement tout de même une invention grecque, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y ait pas de politique dans la Bible, bien entendu. Eh bien, je me suis dit que tel Jacob à son éveil, voyant les anges monter et descendre, mais ces anges qui montent et qui descendent, qui ont des interprétations traditionnelles, sont, me suis-je dit, le double mouvement aussi de ce Jacob qui va aller dans le monde, qui va aller chez Lavane, qui va aller chez les Goyes, d'une certaine façon. Et donc il va avoir besoin des deux jugements. Un jugement qui vient de son texte et de sa tradition même, qui le fasse monter, mais il va aussi avoir besoin d'un jugement qu'on appelle, quand on t'appelle ainsi, un jugement déterminant. C'est-à-dire, à partir de quelques concepts qui sont l'universel, on va pouvoir descendre. Donc, les deux mouvements que je fais dans ces deux livres, Monsombé et Mutatis Mutandis, dans le sillage des deux jugements qu'anciens.
Alors, vous avez cité tout à l'heure votre éditeur, qui est Imago, que vous nous avez expliqué avec beaucoup de poésie. Quand je disais qu'on doit avoir un sentiment de gratitude pour les passeurs de textes, je pensais bien sûr aux auteurs que vous avez cités, entre autres, mais je pensais aussi aux éditeurs en général. Et je pense que votre démarche, qui vous a permis de découvrir le Midrash, de l'approfondir, de le commenter et de l'enseigner, vient du fait que nous avons la chance qu'il y ait aujourd'hui beaucoup plus d'éditeurs qui éditent ce type de livres. Et c'était aussi vers eux que je demandais, est-ce que vous partagez avec moi une reconnaissance et une gratitude toute particulière, François Ardeven?
Eh bien, Marc Anawaknin, j'entends une réitération du signifiant « édite » qui me permet aussi de saluer Edith Applebaum, qui veut dire en hébreu « témoigner, aide ». Donc on pourrait s'amuser à entendre dans le mot éditeur, en le transfusant dans un tout autre signe de langue et sans souci d'étymologie, que ces éditeurs témoignent littéralement de leur geste magnifique, de nous permettre, parfois avec des ventes qui ne sont pas toujours à la hauteur de l'intérêt des livres, mais d'accompagner littéralement et de témoigner à égale hauteur des auteurs, si je puis dire, notre geste de faire passer. Pas de texte sans éditeur, pas d'autotexte, d'une certaine manière. Ils sont la trace, pour rester encore un peu dans le compte, hétéronomique. Ils sont l'autre qui nous permet, vous aussi, et à moi aussi, comme je peux, de réaliser le texte. C'est-à-dire qu'avec un tiers qui tient l'objet. C'est cela, le témoin.
Pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un...
Carlos Jobim, Les eaux de Mars, dans la version de Georges Moustaki, une suite de mots et d'expressions, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, un chemin qui chemine. Une longue liste, François Ardeven, qui danse sur un air de bossa nova, je pense que cela vous inspire beaucoup. Car selon vous et selon le Midrash, dites-vous, tout commence par les rhapsodies qu'offre des listes, et étonnamment, c'est ici l'occasion pour Kant de revenir nous expliquer le mystère profond du fonctionnement de notre cerveau, François Hardeven.
Oui, Marc-Alain Wacklin, je vous remercie beaucoup d'avoir choisi ce morceau magnifique, ce morceau brésilien, Jobim. Et il est vrai que dans ce texte, je fais référence, alors pas à un Brésilien, mais à Borges qui est argentin. Mais qu'il y a quelque chose de la danse. J'ai toujours pensé, d'une certaine manière, que la psychanalyse... Je suis très mauvais danseur, malheureusement, et vieillir m'embête pour ça. Je sens que je ne vais pas vers la piste de danse. Mais en revanche, la psychanalyse est une danse, et peut-être même un tango, dans la mesure où on fait un mouvement en avant, et puis un mouvement en arrière. Mais de ce que ça se répète, ça ne se répète pas. C'est le paradoxe. De ce qu'on dit, la chose, on la dira la semaine suivante, et ça ne sera plus la chose. Et donc, dans ce mouvement de pas de deux, l'objet du désir commence à se dessiner, et puis à tomber, et à choir dans le réel. Donc, pleinement pour la danse. Les effets de liste, on sait bien qu'il y a des énumérations un peu fastidieuses dans la Bible, et que la création du monde elle-même s'accompagne d'une liste. Chez Borges, je crois que c'est Michel Foucault qui a bien montré qu'il y a des listes hétérotopiques, c'est le mot. C'est-à-dire que pour aborder la question de la nature, mot, je le répète, faute de mieux, ou faute d'autres mots, pour rendre compte de la nature, de son émerveillement, les choses nous arrivent dans un fatras, pour parler comme Jacques Prévert. Donc il y a du fatras, la fatrasie est un mot du burlesque du Moyen-Âge. Donc il faut rendre compte de l'étonnante offre du monde. Et donc, je pense que pour aborder la question de la nature, d'une certaine façon, il faut essayer de se dire, dans tout ce qui nous est offert, dans ce grand souk, le minimum d'ordre, repérer le minimum d'ordre. C'est une question très intéressante chez les humains. Il y a toujours, chez tous, le minimum suffisant. Je pense à Aristote qui disait ça, la politique, mais tout le monde sait un peu ce que c'est. Bien, je dirais que c'est ça. Donc, il y a une rhapsodie, in blue ou pas, et dans cette rhapsodie qui pourrait être un chaos, eh bien, il y a un minimum d'ordre. Mais cet ordre doit rester, si je puis dire, respectueux de cette disparate. Mais s'il n'y avait pas, nous dit Kant, un vague principe organisateur, et c'est le début de toutes les synthèses, eh bien, nous serions dans la folie. Eh bien, je dirais que le Midrash est un peu ça. Les œuvres, je parle du Midrash traditionnel, présentent comme ça une quantité ahurissante de commentaires, d'appels de versets, parfois très loin, et qu'il faut s'en réjouir. Mais qu'il faut être capable, et c'est peut-être là la qualité de l'interprète, de celui qui s'y penche, et chacun peut tout à fait y est convoqué, à ce festin du Midrash, c'est la variété. Donc vous évoquiez cette couverture qui est en effet très belle, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose de cette disparate. Il y a un poulet, nous avez-vous dit, peut-être une viande, du pain, peut-être que c'est un repas plus végétarien que vous ne croyez, je n'en sais rien. Il y a le Léviathan, ou des animaux, bref, c'est la variété du monde. Juste avant qu'une organisation captieuse ne le domine, donc avant la domination. Je dirais que le geste Midrash, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est une manière de lire un texte d'avant que le sens le domine ou le chevauche.
Le sens reste frémissant, disait Roland Barthes. La nature, dites-vous, se tisse avec la vie et les animaux, un triptyque qu'il vous plaît de rapprocher de la trinité lacanienne, du symbolique, de l'imaginaire et du réel. La complexité du propos mérite commentaire et éclaircissement, François Hardeven.
Ce n'est qu'une habileté pédagogique, si je puis dire. Ça n'est pas identique, telle chose n'est pas telle chose. C'est un opérateur, ou comme dirait décidément Kant qu'on convoque ce matin, un comme-si. Tout se passe, als ob, comme on dit en allemand, comme-si. Et effectivement, quand j'ai essayé de présenter ces textes midrashiques sur la création, sur le tohu, le bohu, toutes ces choses qui sont dans le livre et qu'on n'a pas le temps d'expliciter, je me suis dit qu'il y a quand même trois notions qui apparaissent assez simplement. C'est-à-dire que, et dans le texte biblique lui-même, il y a ce qu'on appellerait volontairement la nature, c'est-à-dire, mot faute de mieux, l'ensemble de ce qui est dehors, quoi, l'ensemble de cette disparate. Et probablement la chose qu'on nomme, et je l'ai rangée dans la théorie du symbolique. Le symbolique étant chez Lacan un petit peu supérieur aux deux autres. Pas tant qu'une hiérarchie, que sans symbolique, les deux autres ne tiennent pas. Donc, la nature m'a semblé être la position de ce que je voulais dire dans le langage. Mais si je pose la nature, mot faute de mieux, je le rappelle, et qui d'ailleurs intervient tardivement dans la tradition juive et de manière particulière, vous avez deux autres éléments. C'est la vie. Car dans la nature, il y a la vie, mais on peut imaginer qu'il y ait la vie sans la nature. Et puis, il y a les animaux qui sont des formes particulières, des formes singulières de la vie. Donc, les trois fonctionnent, si je puis dire, ensemble. Alors, Lacan a pu proposer de manière formidable ce nœud borroméen qui donc fait que les trois éléments symboliques, j'y mets la nature, le réel, j'y mets la vie, parce que c'est la mort aussi. C'est je suis vivant, je ne le suis plus, c'est le réel, ça cogne. Je vais mourir, c'est désagréable. Et enfin, les animaux qui sont, selon moi, l'imaginaire. Je cite ce beau passage de Saint-Grillard, cet écrivain suisse que j'aime énormément, et qui dit que quand une chose, une idée n'est pas passée par les animaux, eh bien, elle n'est pas valable. Autrement dit, les animaux sont les gardiens de l'imaginaire. Et je pense que nous sommes tous inquiets de la disparition des animaux, non seulement pour eux-mêmes, bien entendu, mais pour les schémas imaginatifs, enfin toute la sexualité que nous proposent les animaux, va-t-elle s'effacer? Les Japonais en ont été très inquiets très tôt, de la disparition des insectes, ils en ont fait ces fameux Pokémon, Pocket Monster. L'animal est le gardien, d'une certaine manière, de l'imagination. Et je vois dans la création, disons, des jours, la proposition faite par Dieu de toutes les créatures qui sont les gardiens d'imaginaire, jusqu'à ce qu'arrive, dans ce mystérieux sixième jour, cette non moins mystérieuse créature qui est la créature. Et qui, elle, va les prendre en charge dans le langage. Donc, vous voyez, il y a le réel, il y a le symbolique, il y a l'imaginaire, mais je le redis, c'est comme si la vie, c'est pas égal le réel, naturellement. C'est une façon de se promener dans ces concepts et de voir qu'ils sont articulés avec en son cœur et en son trou, peut-être, l'homme.
Vous vous ébrouez dans et par le Midrash, et j'aime bien comment vous écrivez ébroué avec un H devant. Pour penser cet ébrouement, je ne sais pas si c'est comme cela qu'on dit,
dire ça,
avec un
de manière, Midrash, on est libre,
de manière hébraïque, et vous citez Montaigne et sa géniale allure à saut et à gambade, c'est la formule de Montaigne. Oui. Comment articulez-vous Montaigne et le Midrash? La rumeur voudrait qu'il fût marane, cela a peut-être son importance, François Ardevenne.
Je vous dirais d'abord, Marc Lingouacmon, que je m'ébroue, mais que je m'ébrèche. D'une certaine façon aussi, en faisant entendre Bereshit, le premier mot de la Torah. Mais il y a quelque chose d'une brèche qui s'ouvre dans le Midrash. Et donc, c'est cette brèche, puisqu'on essaie d'essayer de définir, si c'est possible, le geste midrashique. C'est-à-dire plus un geste qu'un objet. Alors, pourquoi Montaigne? D'abord, il faudrait peut-être citer, pour ces grands passeurs, la figure d'Élisabeth de Fontenay, qui fut ma professeure de philosophie quand j'étais en étudiante en philosophie, et qui profondément a mis l'animal au cœur de sa pensée. Et partant, Montaigne faisait partie de son enseignement. Donc, la figure de Montaigne est une figure très passionnante, évidemment, parce que pré-cartésienne, anté-cartésienne, et peut-être même post-cartésienne. Enfin, il est avant, il peut-être sera-t-il après Descartes. Mais que dans les essais de Montaigne, dans le brouillon que c'est aussi, pas très lisible parfois, dans la surabondance des citations, et le Midrash, et ce livre-là, je le crains, présente trop de citations. Mais c'est une façon de faire un portrait de soi. Il s'agit de ne pas être dans l'idée. Et donc, on va remettre une citation, on va en appeler une très loin, et voilà un texte de Rabbi Eliezer, et voici Kant. On les mélange ensemble en respectant les ordres. Mais c'est une manière de dire, voilà mon portrait. Plus je fais de citations, plus je suis moi-même. En fait, c'est la réalité. Plus je me peins moi-même. Et les idées sont priées de ne pas trop s'aventurer.
Vous déconstruisez les idées d'une certaine manière.
D'une certaine manière.
Pour retrouver le fatras de la liste.
Le Midrash est un déconstructeur majeur du texte biblique. Lévinas d'ailleurs le dit très bien, le Midrash désintimide. Le texte peut être très dogmatique et parfois il est lu, hélas ainsi. Mais le Midrash est insolent, il est taquin. Et donc cette taquinerie du Midrash nous permet de rentrer dans cette volupté du désordre. Il y a ce désordre chez Montaigne. C'est plutôt du latin et du grec. Mais parfois, la pensée se perd complètement, en apparence. Et que soudain, on se retrouve dans un chemin, à sauter sur son cheval, à faire des sauts, des bambades, enfin, à s'agiter dans la nature. Ça, c'est le premier point, je crois. Mais je dirais aussi que ces essais de Montaigne ont accompagné ces années-là, que j'en ai lu quelques-uns et relu pour certains, et je me disais que l'essai de Montaigne ne se constitue pas comme objet. L'objet se délite, en quelque sorte. Ce n'est pas une oraison, ce n'est pas un prêche, ça n'est pas un discours de la méthode. C'est un exercice, disons-le, rhapsodique. Et dans l'échec volontaire de Montaigne de ne pas constituer ses textes en objet, j'y vois une parenté très profonde. Alors, vous évoquiez son maranisme. On peut, peut-être, parier sur, comme disait Léo Strauss, qu'on a affaire à une écriture persécutée. Non pas que Montaigne l'ait été, mais qu'il y a quelque chose dans l'écriture de nécessairement crypté. Pour qu'il y ait de l'écriture, il faut du cryptage, je dirais. C'est la réflexion de Léo Strauss sur Machiavel, sur Spinoza d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire une persécution de l'Inquisition. Ça veut dire qu'il faut, d'une certaine manière, et en cela, le Midrash est crypté. Et il faut d'ailleurs l'apprendre. Puis peut-être un dernier point, c'est que Montaigne est mélancolique, il a perdu son labo ici, et les Juifs ont perdu leur temple. Il y a probablement dans le geste midrashique quelque chose de cette mélancolie qu'on retrouve chez Montaigne.
Merci beaucoup François Ardeven pour cette conversation passionnée et passionnante que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine pour aborder les deux autres thèmes que vous articulez avec celui de la nature, à savoir les thèmes de la technique et de la politique. Entre-temps, je rappelle le titre de votre ouvrage, Un Midrash pour notre temps, Nature, Technique, Politique, texte établi par Edith Applebaum. C'est paru aux éditions Imago. C'est très jubilatoire. Merci encore François Ardeven.
Eh bien merci Marc-Alain Boisquenil et donc à la semaine prochaine.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Valentin Azan-Zelinski, à la réalisation Alexandra Malka, Coltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.